Vous êtes sur RTL.
Et il est présenté bien entendu par Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
L'ex-femme de Michel Fourniret va-t-elle lâcher le morceau?
Monique Olivier est convoquée une nouvelle fois tout à l'heure par la juge en charge de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Dans l'actualité également, manif et transport perturbés, les syndicats remettent un coup de pression alors que la réforme des retraites est présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. 7 Français sur 10 estiment que le conflit n'est pas terminé d'après notre dernier baromètre BVA pour RTL. Et puis Donald Trump, premier président américain défilé aujourd'hui contre le droit à l'avortement. Imagine Edith, tout à l'heure à Washington.
Dans 13 minutes, le surf de l'info avec vous, Cyprien Signy. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec la victoire de nos campagnes.
Oubliez la grève, la réforme des retraites et le coronavirus. Une loi va protéger le chant du coq et les odeurs de crottin.
De météo d'ici 7h.
Le ciel restera sec mais couvert à Versailles dans les Yvelines. Moins 1 degré en ce moment. Sec 5 cet après-midi.
RTL Matin.
Monique Olivier, de retour devant la juge en charge de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin.
L'ex-femme de Michel Fourniret a fait tomber il y a quelques mois l'unique alibi du tueur en série, de plus en plus suspect dans cette affaire. Il avait toujours affirmé avoir passé un coup de fil depuis sa maison de Belgique à son fils le soir de l'enlèvement de la petite fille en Seine-et-Marne en janvier 2003. Alibi balayé donc récemment par son ex-complice qui joue désormais un rôle clé dans l'enquête sur Estelle Mouzin, Signe Dubert.
Oui, la juge s'accroche à l'idée que c'est peut-être de Monique Olivier que viendra enfin la vérité. L'ogre des Ardennes ne passe jamais seule aux aveux. C'est toujours celle qui fut son épouse qui finit par l'y pousser. Alors aujourd'hui, la magistrate espère que l'ex-femme de Michel Fourniret va lui donner des éléments qui lui permettraient de rafraîchir la mémoire du tueur en série. Car à 77 ans, Michel Fourniret n'a plus la même vitalité d'esprit, une expertise en atteste. Mes neurones foutent le camp, se désole-t-il en novembre dans le cabinet du juge. Si cette petite Estelle Mouzin avait croisé mon chemin, je vous le dirais. Mais je n'en ai pas souvenance, insiste-t-il. Alors dans le doute, il réclame qu'on le traite comme coupable, ce qui ne l'empêche pas de jouer jusqu'au bout avec les nerfs de la magistrate qui lui demande à nouveau s'il a tué la fillette. Il est possible que oui, dit-il, et il est possible que non.
Cindy Hubert.
RTL, 6h32 et depuis 4h30, on en parle avec vous au 3210. Les syndicats repassent à l'offensive contre la réforme des retraites.
C'est le jour ou jamais, dit Philippe Martinez, le leader de la CGT. Le texte est présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Des retraites au flambeau étaient organisées hier soir dans plusieurs villes, dont Paris. Il y avait aussi entre 1500 et 3000 personnes à Nantes, à Rennes, plusieurs centaines de manifestants à Bordeaux. Édouard Philippe recevait au même moment les représentants des avocats qui sont mobilisés contre le changement de leur régime. Le mouvement est loin d'être terminé pour une majorité de Français. D'après notre dernier baromètre BVA Orange pour RTL et La Tribune, Christelle Craplet de BVA avec William Galibert.
Ils sont 70% à considérer que ça va continuer. Ils sont que 29% à considérer qu'il va s'arrêter.
Emmanuel Macron répète que ces réformes font du bien au pays. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le sentiment qu'ont les Français.
Effectivement, quand les Français font le bilan et quand on leur demande en fait quel est l'impact des réformes menées sur le plan économique, ils sont presque la moitié, 45% à dire que finalement toutes ces réformes économiques ont plutôt détérioré la situation de la France.
Christelle Craplet de BVA avec William Galibert. Et c'est donc le retour des complications aujourd'hui sur les rails. 7 intercités sur 10 en circulation, autant de TER, trafic du métro parisien très perturbé, mis à part les lignes 1, 7 bis, 14 et Orlyval. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Vous avez retrouvé pour RTL la gare Saint-Lazare à Paris. C'est plutôt calme pour le moment.
Effectivement, excepté pour quelques lignes de métro. C'est le cas notamment de la ligne 13 que souhaite prendre Françoise. Je l'ai rencontrée il y a quelques minutes.
J'ai pris le bus ce matin à Argenteuil. Je suis arrivée normalement. Et là, en voulant prendre mon métro, il n'y en a pas. Je vais essayer d'avoir les métros. Oui, je vais essayer parce qu'à pied, ça fait quand même une demi-heure. Donc, il fait froid en plus. Puis mes petites jambes depuis le temps, ils en ont un peu assez. Si j'y vais à pied, c'est en plus une demi-heure à pied. Donc, plus le métro qu'on attend pour rien.
Alors elle est plutôt résignée, mais finalement contente que les transports en commun fonctionnent ce matin. Pour le moment, on est loin des grandes foules des premiers jours de grève sur les quais et aux arrêts de bus. Seules quelques lignes sont très touchées ce matin, notamment la 3 avec un train sur 5 seulement, ou la 13 avec un train sur 4 à prévoir. Voilà pourquoi quelques trottinettes sont de retour sur le parvis de la gare ce matin.
Merci Arnaud Touche en direct de la gare Saint-Lazare.
Emmanuel Macron rectifie le tir après une déclaration polémique hier à Jérusalem.
Le président avait donné son avis sur l'affaire Sarah Halimi, où le meurtrier a été reconnu pénalement irresponsable. Emmanuel Macron avait fait valoir qu'il y avait un besoin de procès. Et moi de l'Union syndicale des magistrats, le chef de l'État n'a pas à se mêler d'une procédure en cours. On en était là jusqu'à ce tweet envoyé hier soir. « J'ai entendu votre colère », écrit Emmanuel Macron. « Le président n'a pas à remettre en cause une décision de justice. La question de la responsabilité pénale est celle des juges. » Fin de citation. L'espoir de retrouver les 5 Français disparus au Québec s'amenuise. 4 nouvelles motoneiges ont été retrouvées hier en fin d'après-midi à l'endroit où l'on a perdu leurs traces mardi.
Un président américain dans une manif. Image rarissime aujourd'hui à Washington.
Donald Trump va défiler contre le droit à l'avortement lors de la marche pour la vie, une sortie symbolique à 10 mois de la présidentielle. Symbolique et surtout inédite, on n'a jamais vu ça, hein, Philippe Corbet.
Non, jamais aucun président, même ceux qui s'opposaient à l'avortement, n'avaient osé participer à cette marche controversée qui se tient ici chaque année depuis que ce droit a été accordé par la Cour suprême en 1973. 100 000 personnes sont attendues. Donald Trump sait que cette question a été déterminante pour son élection. C'est grâce à ça qu'il a pu fédérer les conservateurs dubitatifs, notamment les chrétiens évangéliques, car il a longtemps soutenu le droit des femmes à disposer de leur corps, mais il leur a promis de choisir des juges qui pourraient remettre en cause le droit à l'avortement. Il a déjà pu faire installer 2 juge à la Cour suprême, qui va examiner prochainement des recours, car des États ont durci leur législation depuis son élection. En plein procès en destitution, il veut rappeler à sa base que c'est aussi cette question qui se jouera dans les urnes en novembre.
Philippe Corbet.
Allez, on marque une pause dans ce journal et ensuite l'impact du virus s'étend en Chine. On l'évoquait avec notre invité il y a quelques minutes. Un deuxième mort confirmé ce matin en dehors de l'épicentre de l'épidémie. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Julien Cellier.
Et la suite de votre journal, 6h37, vous écoutez RTL. Le coronavirus continue donc de se propager en Chine.
Avec un deuxième mort confirmé ce matin dans une zone très éloignée de l'épicentre de l'épidémie, à près de 2000 km de Wuhan. On en est à 25 décès, plus de 800 cas enregistrés officiellement. La métropole de Wuhan et d'autres villes environnantes sont désormais coupées du monde, en quarantaine. On n'y entre plus, on n'en sort plus. On est à la veille du nouvel an chinois. À Pékin aussi, il a fallu prendre des mesures inédites. Sur place pour RTL, Stéphane Pambrin.
Toutes les festivités du Nouvel An chinois ont été annulées à Pékin. Même la cité interdite, le monument le plus visité de Chine, va fermer ses portes au public. La propagation du virus oblige les autorités chinoises à prendre des mesures drastiques. Dans la province du Roubaix, foyer de l'épidémie, 8 villes ont été placées en quarantaine, soit plus de 20 millions de personnes coupées du monde. Certains médias remettent en cause les chiffres officiels et parlent de plus de 6000 personnes contaminées dans la seule ville de Wuhan où a débuté l'épidémie. Les hôpitaux sont débordés. Et le virus s'est déjà propagé à la moitié des provinces chinoises. Alors partout, on désinfecte les rues, les ascenseurs et les transports publics. Beaucoup de gens font des réserves d'eau et de nourriture, craignant des pénuries à cause des restrictions de circulation. Même les masques de protection et les savons commencent à manquer. À quelques heures de la fête du printemps, c'est toute la Chine qui s'inquiète.
Stéphane Pambrin à Pékin pour RTL et notre invité à 6h15, donc chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Antoine Bondaz, précisait que toutes les provinces en Chine étaient désormais touchées par cette épidémie. Séisme sportif en Australie avec l'élimination de Serena Williams à l'Open de tennis, éliminée dès le troisième tour par une Chinoise, Qiang Wang en 3-7, 6-4, 6-7, 7-5. Élimination aussi de l'ex numéro 1 mondial, la Danoise Caroline Wozniacki, battue par la Tunisienne Hans Jaber, 78e mondial. Wozniacki annonce qu'elle met fin à sa carrière. Elle a 29 ans.
29 ans, nouvel âge pivot.
L'événement ce soir, c'est la NBA à Paris, à Bercy. Premier match du genre dans la capitale. Les Milwaukee Bucks contre les Charlotte Hornets. Pas de place à moins de 315 €. Il faut avoir envie. Des prix à l'américaine pour un événement, on le redit, Nicolas Georgerot, inédite ici chez nous.
Oui, Paris plutôt que Londres, comme c'était le cas ces dernières années. Un signe fort envoyé par la NBA qui veut consolider ses parts de marché dans notre pays. Fini les exhibitions, place au match officiel. Jacques Monclar, consultant basket, commentera la rencontre sur Bein Sports.
C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un match de saison régulière officiel. Il y a un côté World Company, tout est strict, tout est calé, tout est cadré. Le sens du détail des Américains poussé à l'extrême. Moi, je m'éclate quand je vois le terrain de basket au milieu de Bercy.
300 personnes de l'organisation NBA ont fait le déplacement, 160 dans les délégations des deux équipes, logées place Vendôme au cœur de Paris. Les protocoles ce soir, les traditions seront respectées. L'hymne américain retentira, tout comme la Marseillaise. Il y aura également les animations en tout genre, un basket spectacle, la voie à suivre, selon le patron de la Ligue nationale, Alain Béral.
C'est très inspirant et on a toujours estimé que l'ADN du basket, ça n'était pas que le terrain, c'était aussi le spectacle qui avait autour. C'est un spectacle familial et que les gens en aient plein les mirettes pendant 2 heures, qu'ils puissent avoir justement ce spectacle qui comble tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas forcément amateurs que de basket.
Et la NBA a amorcé un cycle. Il y aura bien un nouveau match l'an prochain à Paris.
Il y a le basket avec la NBA, il y a aussi le football. Hein, ce soir, 21e journée de Ligue 1, Nice reçoit Rennes.
Ah, les places ne sont pas à 315 euros. Ah, en revanche, merci beaucoup, Jérôme, pour voir le stade rennais. ça se mérite. Hein. On vous retrouve.